Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Le staff élyséen avait pourtant commandé des pains surprises nickel avec des canapés au saumon, d'autres au roquefort et du cidre pour faire passer tout ça. À 17h, le roi marocain Mohamed VI était attendu à l'Élysée en vue de réchauffer, comme on dit, les relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Parce que ça fait un an qu'il y a, comme qui dirait, une petite brouille entre les deux pays. Une vague histoire de torture exercée par le chef du renseignement du royaume. Chef du renseignement lui-même interrogé par la police française l'année dernière. Petite entrevue qui n'aurait pas ravi la royauté. Ce soir, c'était donc l'occasion de faire table rase, de se taper dans le dos autour d'un cocktail à la bonne franquette. Et là, la bourde, la gaffe. L'obsession des journalistes qui ne veulent pas que le cidre coule à flot sans y ajouter leurs quelques gouttes de sang. J'ai nommé Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les deux enquêteurs du Monde qui sortent aujourd'hui ce qui s'appelle désormais le Swiss Leaks. Swiss Leaks, c'est un système international de fraude fiscale. 180 milliards d'euros en transit, 100 000 clients, 20 000 sociétés offshore, l'éclate. Et là, au milieu des listings de clients qui valent de l'or, le roi Mohamed VI. Sauf que, comme le rappelle l'article, il est en principe illégal pour des Marocains résidant au Maroc de détenir un compte bancaire à l'étranger. Quelle bande de rabat-joie, ces Davet et Lhomme qui font toujours fouiner là où il ne faut pas. Publier ça le jour d'un cocktail de trêve, c'est vache.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Vers 19h30 tout à l'heure, vous nous recevrons Jennifer Leclost de l'association L'Air de Rien qui lance une nouvelle fois son projet Listen to This, un projet ambitieux de découverte de pratiques artistiques et musicales qui s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans. On en saura plus tout à l'heure et à la fin de l'émission, vous entendrez la chronique sportive de Charlotte, notre sportive nationale. Mais d'abord, nous recevons nos illustres, nos jeunes, nos vifs et toujours très classe, mais ça vous ne pouvez pas le voir parce que l'auditeur est aveugle, ambassadeurs des villes jumelées avec Angers.
Mesdames, messieurs, les ambassadeurs.
Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison.
Nous nous retrouvons pour cette conférence.
Un goût raffiné qui charme toujours les invités.
Qui est devenu un rendez-vous incontournable, un rite.
Welcome, benvenuto, willkommen.
Ce soir et pour la quatrième fois de cette saison, donc, nous recevons les ambassadeurs des villes jumelées avec Angers. Salut Yannick.
Bonjour.
Tu viens d'Osnabrück en Allemagne. À tes côtés, je salue Laetitia. Salut.
Bonsoir.
Qui vient de Pise en Italie. Et enfin, Nina. Bonsoir.
Bonsoir.
De Wigan en Angleterre. Alors, on rappelle, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, quel est votre rôle ? En quelques mots, c'est entretenir les relations entre vos villes et la nôtre, Angers. Vous êtes chargé de la communication, des échanges. Et comme d'habitude, si vous le voulez bien, on va commencer cette discussion avec un petit tour de table d'actu. Qu'est-ce qui se passe dans vos pays ? Yannick, à toi l'honneur.
Oui, chez nous, on discute beaucoup sur une actualité avec le titre « La Grèce veut recevoir des réparations d'Allemagne ». Ça veut dire, pour réaliser son programme pour lutter contre les dettes de la Grèce, le ministre-président de la Grèce, Alex Tsipras, réclame d'Allemagne de payer des réparations de Seconde Guerre mondiale à la Grèce. Et il est convaincu qu'il y a encore des réparations ouvertes d'Allemagne de l'époque. Et il dit que l'Athènes a la responsabilité morale envers leur peuple, envers l'histoire et envers tous les peuples d'Europe qui ont lutté contre les nazis pour recevoir cet argent. Et le gouvernement d'Allemagne pense que les réparations ont qu'ils ne sont pas plus coupables et que l'Allemagne ne doit plus payer des réparations au pays presque 70 ans après la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait déjà, des années précédentes, il y avait déjà des pays comme la Pologne ou l'Italie qui ont réclamé que l'Allemagne doit encore payer des réparations. Mais l'Allemagne a refusé toutes les réclamations.
Ça fait beaucoup parler en Allemagne, alors ?
Oui, on discute beaucoup sur ça, car on est un peu, on n'est pas plus le Troisième Reich, en fait, heureusement.
Nina, de ton côté, en ce qui concerne l'actualité au Royaume-Uni ?
Oui,
alors... Gros titre.
À Oxford, Marine Le Pen était accueillie par l'association d'étudiants, The Oxford Union, à une conférence débat. Et ça a devenu un fiasco parce que, bon, c'était le 5 février, il y a plusieurs personnes qui ont manifesté contre la participation de la présidente du Front National. Et les manifestants ont brandi des pancartes avec « Plus jamais Le Pen et Recaille nazi ». Et ils accusaient l'Oxford Union d'offrir une tribune aux fascistes.
Elle a réagi comment d'ailleurs, Marine Le Pen, on sait ou pas ?
Pas.
Non. Bon. On ira voir. Merci Nina. Laetitia, en Italie, bah, c'est quand même pas rien, vous avez un nouveau président.
Oui, on a un nouveau président de la République. Il s'appelle Sergio Mattarella. Il est né en 1941. C'est un tout nouveau président puisqu'il a été élu le 28 janvier. Après les démissions de Giorgio Napolitano. Donc, à la base, Sergio Mattarella est un avocat qui a aussi été juge de la Cour constitutionnelle. Et il a été ministre pendant les années 80. Et il a toujours adhéré au parti de la démocratie chrétienne qui a gouverné l'Italie pendant 40 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a dit que cette élection a été une victoire tactique du premier ministre Matteo Renzi parce que c'était le candidat proposé par le Parti démocrate de Matteo Renzi. Et c'est un homme qui est lié, on va dire, qui est très motivé pour ce qui concerne la lutte à la mafia et la criminalité organisée parce que son frère a été tué en 1980 par la mafia en Sicile, puisqu'il était président de la région Sicile. Il s'était exprimé en faveur d'une réformation de la politique sicilienne contre la corruption et les pots de vin, et voilà, la relation à la mafia.
En Italie, le président de la République, c'est pas comme en France, c'est-à-dire que on n'entend pas autant parler que François Hollande pour nous ici.
Voilà, c'est exactement le contraire en fait. Notre Premier ministre est l'équivalent du président de la République française et l'importance comparable, alors que le président de la République italienne est plutôt votre Premier ministre, on va dire.
On va continuer à discuter avec vous, nos chers ambassadeurs. Ce sera juste après le choix musical de Yannick et on va juste écouter la justification de Yannick. Ça s'appelle Andrea Berg. Je te laisse dire le titre du morceau.
Oui, Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen. Ça veut dire tu as menti mille fois en fait. Et ça, c'est une chanson. C'est un peu bizarre en fait, mais ça traite de l'amour et d'être trompé. Mais sur chaque fête en Allemagne, après un certain temps, on danse et on chante avec cette chanson et on fait la fête avec ça. C'est typique.
Tu vas nous transporter alors dans une fête allemande typique.
Oui.
Tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ce qui était important pour nous, c'est effectivement d'être en tête. On s'aperçoit qu'il y a quand même une réelle dynamique, non seulement sur cette circonscription, mais aussi au niveau national, puisque vous avez vu les sondages qui donnent Marine très largement en tête. En cas d'élection présidentielle au premier tour, elle dépasse les 30%. Donc il se passe quelque chose. Voilà, il est en train de se passer quelque chose dans ce pays.
Sophie Montel, la candidate du Front National, arrivée en tête de la législative partielle de la 4e circonscription du Doubs la semaine dernière, mais que Frédéric Barbier, candidat PS, a doublé de peu hier. Le Front National n'aime pas qu'on l'appelle parti d'extrême droite, mais tant pis, on le fera quand même ce soir. Et puis on va faire, pour l'occasion, un petit tour d'Europe des partis d'extrême droite. Voilà, essayer de savoir qui, chez vous, représente ces mouvements-là et qu'est-ce que ça représente en termes de Dora. On commence par Nina. En Angleterre, il y a deux figures importantes en ce moment pour l'extrême droite. C'est Nick Griffin qui est à la tête du British National Party, mais tu vas le prononcer mieux que moi. Et puis Nigel Farage à la tête de l'UKIP.
Oui, c'est vrai. Avant, en fait, c'est important de dire qu'il y avait la Ligue anglaise de défense qui était créée en juin 2009. On peut les reconnaître à la cagoule qui porte un blason représentant une croix rouge sur fond blanc et rappelle la croix de Saint-Georges. En fait, c'était un mouvement patriotique, xénophobe, qui s'est voué à la lutte contre l'islamisme. Alors, le meurtre d'un soldat dans le quartier de Woolwich à Londres par un homme qui agit au nom d'Allah a réveillé l'extrême droite.
C'était quand ça, ce meurtre-là?
C'était 2012-13. Et après, bon, après ça, le nombre de sympathisants de English Defence League triplé, passant à plus de 75 000 fans sur Facebook. Alors, après ça, on a vu aussi une croissance du supporter pour British National Party. Ça, c'était créé en 82. Maintenant, c'est dirigé par Nick Griffin depuis 1999. Il dépose de ses conseillers élus, mais n'est plus représenté au Parlement européen ni au Parlement du Royaume-Uni.
Aux dernières européennes, ils ont fait 1% et quelques.
Oui. Quand même, en 2010, alors les dernières élections législatives en Angleterre, il est devenu le 5e parti derrière UKIP.
UKIP, donc, mené par Nigel Farage, un parti tout à fait eurosceptique, voire europhobe, qui a atteint 27% des suffrages en mai dernier lors des européennes. Le premier score, en fait, pour le Royaume-Uni.
En fait, c'était un résultat historique parce qu'ils ont obtenu le plus grand nombre de voix entre les partis britanniques. Alors oui, en fait, c'était vraiment important et parce que le politique, c'est l'immigration. Ils ont dit que s'ils étaient élus, le parti gérerait immédiatement l'immigration. C'est quelque chose de très chaud en Angleterre en ce moment. Voilà. Aussi, ils attirent les élus de la frange anti-européenne du Parti conservateur et ils militent pour le retrait du Royaume-Uni de l'Europe.
Bon, ils n'aiment pas l'Union européenne, quoi. Merci, Nina. On continue ce petit tour d'horizon des partis droite plus avec Laetitia.
Oui, oui.
Tu expliquais tout à l'heure hors antenne qu'en Italie, l'extrême droite grandissait surtout dans les groupements extra-parlementaires.
Oui, oui. Il faut dire qu'elle est
quand même très bien représentée par les groupes parlementaires, par les partis qui en représentent dans le Parlement. L'extrême droite en Italie est liée, on va dire historiquement, au terrorisme, à la mafia. Et plus récemment, elle est liée aussi aux mécontents, à l'ignorance, mais pas seulement, pas que. Donc, on va dire que il y a des partis comme la Ligue Nord.
La Ligue du Nord, qui est un parti anti-euro, anti-immigration, qui a fait 6% en mai dernier.
Tout à fait. Dont le secrétaire général est Matteo Salvini, qui est un très bon copain de Marine Le Pen.
Ils doivent se faire des bouffes.
Ah oui, ils sont hyper copains. Et donc la Ligue du Nord, qui est le parti, on va dire, les plus explicitement xénophobes. Après, nous avons aussi le parti de Berlusconi, qui est quand même une droite prête à faire des compromis. Donc d'aujourd'hui, en fait, on a la nouvelle que la Ligue du Nord et le parti de Berlusconi, Forza Italia, vont créer une alliance pour contraster le gouvernement du Parti démocrate. Et on va dire que ce parti sont ouverts à tout soutien qui peut venir des groupes extra-parlementaires comme Casa Pound, comme Forza Nuova, comme Movimento Fascista. Et cette droite extra-parlementaire est assez dérangeante parce qu'il y a des groupes qui sont des vrais nostalgiques de l'époque du fascisme, voilà, c'est quand même assez frappant. C'est des gens qui sont très 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 bons sur tout ce qui est promotion et information sur Internet. Il y a une étude de chercheuses en sciences politiques qui s'appelle Web Nero, donc Web Noir. C'est un livre édition Il Mulino, sorti en 2013, et qui justement c'est une étude approfondie sur la présence numérique de ces groupes d'extrême droite. Très, très, très bien détaillé et qui justement montre comment ces partis finalement font
leur propagande sur Internet.
Leur propagande sur Internet de manière très efficace.
J'aurais aimé qu'on dise rapidement un mot sur le mouvement des 5 étoiles, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est présenté dans les médias comme un parti populiste. Est-ce qu'on peut l'affilier à un parti extrême droite?
Il faut que je dise que c'est une opinion personnelle, celle que je vais dire maintenant. À mon avis, les médias, comme tu as dit, c'est justement les médias. C'est une courante, c'est une prise de position des journalistes, à mon avis, qui dessine ce parti comme d'extrême droite, alors que populisme ne coïncide pas forcément avec fascisme. Donc populisme, ça ne veut pas forcément dire ça. Alors c'est vrai que les modalités opérationnels de ce parti ont rappelé effectivement des modalités d'opération fasciste, mais moi j'ai dit à suivre. Voilà, c'est un mouvement tellement contradictoire avec tellement des faiblesses intérieures qui, à mon avis, ces promesses, on va dire, des renaissances fascistes, à mon avis, vont être déçues, mais à suivre.
On attendra de voir donc. Merci, Laetitia. Yannick, on finit par toi.
Oui.
En Allemagne, vous avez un parti qui s'appelle le Parti National-Démocrate Allemand, NPD, aux dernières élections européennes. Ils ont fait un score faible de 1%, c'est ça ?
1%, oui, c'est
Mais
vrai.
Mais ils ont quand même eu un siège au Parlement.
Oui.
C'est qui ? C'est quoi ?
Alors, c'est la partie des extrémistes droites qui sont les plus visibles, en fait. On voit pendant les scrutins, on voit des affiches de cette partie-là dans les rues avec des paroles un peu comme la NSDAP, la partie de Hitler.
Il est considéré comme un parti néo-nazi. Est-ce que ouvertement on peut dire ça ou pas?
C'est une partie extrême droite, en fait, oui. Il y a souvent des discussions et des débats d'interdire cette partie, Mais on a peur que, comme ça, la scène d'extrême droite disparaisse dans le... se cache.
Terrain,
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Et, donc, comme ça, on n'est pas sûr si on peut interdire ça ou sinon...
Ou s'il vaut mieux les avoir à l'œil pour savoir
oui,
ce qu'il...
Oui, car il y a quand même beaucoup de groupements, beaucoup d'organisations qui travaillent cachés. Et qui sont que visibles pendant des manifestations contre des étrangers, contre pour les cibles des extrêmes droites.
Il y a un autre groupement qui s'appelle AfD Alternative pour l'Allemagne. En allemand, ça donne quoi?
Alternative für Deutschland.
C'est quoi,
AfD.
C'est quoi ce groupement?
Ça, c'est une partie qui est assez récente. Elle est fondée en 2013. Et elle a participé aussi aux élections fédérales allemandes en 2013 et a reçu 4,7%. Alors, ils sont pas accédés au gouvernement, mais presque. Et ils sont critiques envers l'euro, contre l'Union européenne. Alors, ils sont plutôt droite et populiste, mais pas si extrême, mais... C'est déjà critique.
En Allemagne, il existe depuis cet automne à Dresde des manifestations anti-islam.
Oui.
C'est le mouvement Pegida. Tu nous diras ce que ça veut dire, Pegida?
Oui, Pegida, ça veut dire patriotische Europäer gegen die Islamierung des Abendlandes. Ça veut dire en français européenne patriote contre l'islamisation de l'Occident.
Voilà, tout est dit. Il y avait quand même 25 000 personnes le 12 janvier dernier,
oui.
Le record, mais
oui.
Quelle ampleur ça prend en Allemagne? Enfin, comment c'est vu, Pegida? Et voilà, quelle est l'ampleur de ce mouvement?
Alors, c'est très critiqué, c'est assez nouveau. Cette organisation s'est fondue en octobre 2014. Et à partir de ça, ils ont fait des manifestations hebdomadaires à Dresde, en est d'Allemagne. Près de la frontière polonaise. Et ils ont fait des manifestations et ils ont commencé avec peu de personnes. Et après, ça a devenu vraiment un grand mouvement. Et par exemple, le 12 janvier, c'était plus de 25 000 personnes qui ont assisté là. Et même dans d'autres villes d'Allemagne, il y a aussi des mouvements comme Pegida. Et c'est vraiment... C'est vraiment choquant, en fait. Et il y a, par exemple, Madame Merkel, notre chancelière, qui a dit, pendant son discours de la fête de Saint-Sylvestre pour la fin d'année, elle a dit qu'il ne faut pas participer à ces manifestations-là, car c'est dangereux. Il y avait aussi Lutz Bachmann, ça c'est le fondateur de cette organisation, de Pegida, qui a démissionné de ses fonctions après que le quotidien Bild a révélé qu'il a insulté les étrangers comme bâtards et qu'il a posté des images où il grime Adolf Hitler. Et la dame qui lui a remplacé après, elle a arrêté aussi son travail une semaine plus tard. Dans cette organisation comme ça, c'est vraiment tout un peu bizarre et ouais.
Rapidement, quelques mots parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais comment est-ce que vous voyez chacun l'avenir politique de vos pays au vu du climat, au vu de ce dont on vient de discuter, au vu aussi des événements, nous en France on a beaucoup parlé en janvier. Comment est-ce que vous imaginez l'évolution des mouvements d'extrême droite dans vos pays dans les prochains mois? Nina, par exemple, il y aura des élections qui s'apparentent aux élections législatives françaises. Chez vous, en Angleterre, ça s'appelle les élections générales. Est-ce que tu penses que UKIP peut exploser encore les scores?
Il y a vraiment la possibilité que UKIP va avoir beaucoup plus de pouvoir dans l'Assemblée à Londres. Et ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils sont vraiment europhobes, anti-tout, en fait, anti-immigration. Mais quand même, bon, c'est la scène politique en Angleterre en ce moment, c'est vraiment fragmenté. Alors, c'est très difficile en ce moment de prévenir ce qui va passer en Angleterre. C'est très chaud en ce moment. Intéressant.
Laetitia, en quelques mots?
L'accord entre Salvini et Berlusconi d'aujourd'hui, ça fait un peu peur, dans ce sens-là, où c'est la Ligue du Nord et Forza Italia qui sont alliés. À suivre. Je pense que certainement la vision de Matteo Salvini est très dangereuse. C'est une vision xénophobe et ethno-régionaliste qui, voilà, qui n'a pas un futur, à mon avis, constructif pour, ce pays, pour notre pays. Et voilà, on verra.
Yannick ?
Oui, en Allemagne, je crois on est très prudent par rapport aux extrêmes droites à cause de notre histoire avec les nazis et du Troisième Reich. Mais avec les manifestations de Pegida, c'est vraiment, ça fait un peu peur et c'est, on doit être prudent et on doit regarder qu'est-ce que ça donne en fait. Et je crois pas que, non, je crois les Allemands, ils sont très prudents et c'est bien comme ça.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous encore ce mois-ci. On vous retrouve le mois prochain. Et Nina, on va se quitter avec ton choix musical. C'est The Verve. The Verve, comment on dit d'ailleurs ?
The Verve.
The Verve. Et c'est un groupe qui vient de...
Qui vient de Wigan.
Tu peux nous présenter peut-être le titre que tu as choisi ?
Qu'est-ce que j'ai choisi ? Ah oui, Lucky Man. Lucky Man, l'homme qui a de la chance. Alors c'est une chanson de mon adolescence.
Merci beaucoup. Merci Nina, Laetitia et Yannick d'avoir été
merci avec nous. Merci aussi.
changing me something in my liberty. It's just a changing me something in my liberty.
On coupe la parole comme ça, c'était The Verve, le souvenir d'adolescence de Nina.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et en studio, on accueille Jennifer Leclost, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de projet au sein de l'association L'Air de Rien. Mmh. Et avec vous en studio, Guillaume, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, MC au sein de Nouvelle Air, et puis, puisque Nouvelle Air est à l'origine de L'Air de Rien,
c'est
vous
ça.
Êtes aussi coordinateur de l'association.
Voilà.
Une asso qui lance lundi prochain au Shabada la session numéro 2 de Listen to This. Alors Listen to This, vous allez nous expliquer, mais je... dans les grandes lignes, c'est un projet, c'est une résidence artistique itinérante interstructurelle, comme ça, ça fait peur. En fait, l'idée, c'est de proposer à des jeunes de 12 à 17 ans de créer, de découvrir, de prendre part à la pratique artistique et plus précisément musicale. Oui. Ce projet, il est né de quel constat ?
Alors, d'abord, de différents constats, c'est qu'on a remarqué qu'entre les structures, il y avait chacun travaillait un peu dans son coin. Il n'y avait pas forcément de lien entre les différentes structures socioculturelles. Donc, le premier constat, il était là. Et le deuxième, c'est parti, en fait, de l'association L'Air de Rien, à travers ses différentes expériences qu'elle a pu faire au niveau national, différents projets menés par Nouvelle Air, surtout dans le nord et dans le sud de la France. C'est vrai qu'il y avait déjà des projets entre différentes structures sociales, socioculturelles. Il y avait vraiment ce mélange-là qui était fait. Et il n'y avait pas assez sur Angers, donc on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas nous.
Puis c'est vrai que c'était aussi l'occasion pour les jeunes de changer de lieu, d'univers un petit peu. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup de projets qui allaient à l'intérieur des structures, dans certaines communes. Et en fait, les jeunes se déplaçaient peu en fait, sur le département. On s'est dit pourquoi pas créer une sorte de mini-tournée de résidence comme ça, de création, où, avec tout un groupe donc, de jeunes artistes, de professionnels, de techniciens, d'animateurs, se déplacer comme ça, vraiment, dans un nouveau lieu de création. Donc changer d'environnement, se confronter à d'autres choses, milieu rural, milieu urbain, et comme ça apprendre ensemble, former un collectif en quelques jours.
Alors ces jeunes, ils viennent, vous l'avez dit, milieu rural, milieu urbain, mais vous les recrutez entre guillemets, comment est-ce que vous arrivez à les mettre dans vos filets, ils viennent d'où?
Ah bah, c'est un énorme casting, hein. je te le cache pas que c'est des mois de travail.
Ouais. Bah, c'est vraiment la volonté des structures de travailler avec nous. Alors c'est vrai que nous, on leur parle de nos projets, de l'initiative qui a été faite l'année dernière, l'année passée, que ça avait bien marché. Donc c'est vrai que ça les emballe plutôt. Et puis après, il y a aussi le côté bouche à oreille par rapport au projet l'année dernière. Du coup, c'est vrai que ça s'est développé beaucoup cette année puisqu'on on fait deux résidences pour la saison 2015. Donc c'est vrai que c'est plutôt une démarche volontariste de chacun. C'est...
Donc, puis c'est vrai qu'on s'appuie aussi beaucoup sur les animateurs. Qui sont en contact avec les jeunes, qui connaissent les petits groupes qui existent déjà, ceux qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas ou qui ont envie de pratiquer. Et c'est vrai que nous, c'est ouvert à tous, vraiment, donc 12-17 ans, donc pratiquants ou non pratiquants. Mmh. Et c'est très très large au niveau aussi de l'esthétique musicale, puisqu'on on peut passer du rock au reggae, à l'électro, au reggae, au hip-hop. On mélange danse, tous les instruments de musique, basse, batterie, guitare, violoncelle, percussion, human beatbox, et donc tout ce qui est texte, chant, rap, spoken word, slam.
Combien de jeunes en tout?
Alors,
parce qu'il y a deux résidences différentes en juillet, il y a deux dates, enfin deux voilà, semaines oui. différentes, une dans la région angevine, entre guillemets, aux ouais. alentours d'Angers, et puis une dans les Mauges.
C'est ça, oui. Et donc, il y a ces deux semaines-là. Il y a un concert, donc, le 16 février, au Shabada, qui regroupe un peu tous ces jeunes. Donc, il y aura à peu près 200 jeunes sur le concert, le 16. Oui. Et sur chaque semaine, on devrait atteindre 50 jeunes ouais. par semaine.
50 jeunes.
C'est donc, l'objectif, 50 jeunes artistes qui défilent sur scène. Donc, c'est un sacré boulot et un sacré défi. Mais on s'est rendu compte que ça marchait, que ça fonctionnait, qu'il y avait une certaine osmose qui se créait vraiment, des liens assez forts et en très peu de temps. Et l'année dernière, en tout cas, ça a vraiment super bien fonctionné. Mmh. Donc on touche du bois, on croise les doigts et on espère que cette année, ça sera encore la même chose.
Qui on ne dit pas encadré, mais qui chapeaute un petit peu tout ça? Donc évidemment, l'asso, les animateurs, mais il y a également Nouvelle Air, puis des gens de la Ruta, des gens de Zendile.
C'est vraiment un travail collectif, donc c'est vrai qu'on a plein d'étapes préalables avec les animateurs, les partenaires aussi qui nous entourent, mais pour ce qui est de l'encadrement des jeunes, je dirais que c'est plutôt partagé. Il y a le côté intervenant qui apporte la pratique, l'aspect pédagogique, etc. Et le côté animateur, déjà, qui sont aussi accueillants pour certains et qui mettre en place des choses pour les jeunes en termes d'animation qui sont aussi un soutien parce que c'est les animateurs qui connaissent les jeunes, donc c'est très important. Pour certains, ils ont vraiment plus qu'un rôle d'animateur parce que c'est un peu leur repère pendant cette semaine-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail collectif avec eux, les intervenants, les équipes pédagogiques.
L'équipe technique
aussi, oui.
En fait, sur les semaines, en fait, au niveau du contenu, on a vraiment ce travail de création, d'interprétation, de répétition pour la scène. Et il y a aussi des rencontres le soir avec d'autres artistes aussi locaux qui sont professionnels et qui viennent partager leur expérience et puis donner quelques petits conseils pour le concert de la fin de semaine. Il y a aussi, on parlait du travail sur scène, mais bien sûr, il y a des groupes de jeunes qui vont pouvoir suivre les techniciens, son, lumière, aussi tout un côté vidéo, photo, donc pas forcément le côté en lumière sur scène, mais aussi il y a tout l'aspect...
Dans l'ombre,
les hommes de l'ombre.
Alors ça, c'est en juillet, mais concrètement, lundi prochain au Shabada, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer?
C'est la première rencontre entre les jeunes et les intervenants. C'est le premier moment qui lance le projet. Donc, pour certains, c'est la découverte des artistes qui seront présents ce lundi. Et c'est aussi l'occasion de susciter quelque chose chez les jeunes parce que c'est vrai que c'est un projet qui démarre en juillet, donc il y a quand même un certain temps qui se passe.
Il faut les tenir.
Voilà, donc c'est aussi montrer les différentes disciplines qu'il peut y avoir sur cette résidence-là. Mmh. Et puis le premier contact et on espère éveiller la curiosité et susciter leur intérêt à travers ce concert qui est plutôt un concert où on échange, quoi.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le point de départ, le lancement. Les artistes sur scène font, on va faire un peu ce qu'on leur demande. C'est-à-dire, on va se mélanger. On se connaît tous un petit peu entre Zenzile, La Ruda, Nouvelle Air. On a déjà fait pas mal de choses ensemble. Puis on a pas mal d'années de concerts dans les pattes. Donc ça va assez vite. Mais on fait une répète, en fait, le dimanche. Et le lundi, on est en concert et on propose quelque chose comme ça. Où on joue, on mélange les styles, chacun vient poser sur quelque chose d'autre.
Ouais, comme dit Guillaume, c'est vraiment le reflet de ce qu'on demande aux jeunes. Et ils ont différents univers, et justement, c'est mélanger leurs univers pour créer quelque chose de cohérent, de sympa.
Pour une valorisation à l'automne prochain?
Il y aura un concert en fin de semaine à chaque fois, chaque fin de semaine, donc les deux semaines en juillet, qui est en plus un concert un peu pour les familles, les amis, dans un cadre un peu plus familial. Et par contre, on aura bien sûr un retour en automne, on fera l'ouverture de festival, donc quelque chose un défi de plus. C'est vraiment, notamment les Éclectiques par exemple, comme un gros festival dans la région, donc une sacrée pression pour les jeunes d'ouvrir un festival comme ça, et devant un public qui est différent, ce ne sera pas leurs potes, ce ne sera pas la famille.
Ils ne seront pas attendus.
C'est un challenge.
Ouais, concept de première partie où peut-être on va se prendre des tomates pourries sur la tronche, mais peut-être on va être applaudis.
Stress, genou qui tremble.
Mais bon, au moins, c'est vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire vraiment aller jusqu'au bout de la pratique, du projet avec eux. Donc, voilà.
J'imagine que si vous remettez le couvert, c'est que le premier Listen to This s'est bien passé, mais qu'est-ce que ça vous a appris, en fait, sur les pratiques culturelles ou alors peut-être tout simplement les non-pratiques culturelles, le côté discriminant peut-être des pratiques culturelles parfois. Enfin, je ne sais pas si ma question est très claire, mais en gros, comment ça s'est passé l'année dernière et qu'est-ce que vous avez appris de ce premier Listen to This ?
On a été vraiment agréablement surpris de cette mixité qu'on a pu avoir super rapidement, en fait. Dès le premier jour, bon, on se regardait un peu de loin, bien sûr, on ne se mélangeait pas trop. Et dès le deuxième jour, on a commencé à sentir qu'il y avait certains rapprochements. On essayait de mettre une ambiance aussi, pas que pendant les sessions de création, mais aussi hors session, pendant les repas, aux pauses. On essayait de commencer à former le groupe. Et ça s'est vraiment ressorti sur scène. Et puis, on a fini par se retrouver avec des jeunes qui écoutaient par exemple que du rap. Et qui finalement ont fini par chanter de la cumbia colombienne, à danser sur du rock. Et ça, c'était un défi que nous, on s'était mis. Et on a été vraiment, on était surpris, contents. On s'attendait presque pas à aussi bien, en fait.
Oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais touché un instrument de leur vie. C'était vraiment l'occasion de leur donner cette chance-là. Et c'est vrai, quand on entend des retours pour certains qui nous disent « Ah tel jeune prend des cours de musique depuis la rentrée », on se dit que le travail, l'objectif, il est accompli. Et c'est ce pourquoi on a envie de continuer, c'est aussi permettre à chacun d'accéder à la pratique. Et pas seulement... c'est vrai que beaucoup de projets sont axés sur... la diffusion, aller dans une salle, voir un spectacle, etc. Mais d'être acteur, c'est autre chose. Et c'est vraiment là où on voulait axer Listen to This.
Qu'on suivra de très près ici à Radio Campus Angers. Et puis je signale juste, Guillaume, parce que l'actu est super chargée pour vous, que l'album de Nouvelle Ère, Les Yeux de la Foule, sort lundi soir prochain.
Un peu partout en France. Il sera dans les bacs, normalement.
Voilà. Mais merci en tout cas, Guillaume et Jennifer, d'avoir été dans le sous-marin ce soir. Et puis, bon lancement pour les Listen to This.
Merci.
Merci. Au revoir. Du, 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 la parola non ha né sapore né idea, ma due occhi invadenti, petali di orchidea. Se non ha resta di te, della tua poesia, mentre l'ombra del sogno lenta scivola via, se non ha. Ti sento ad
c'était Ticento du groupe a cappella de Pise Libero Coro qui sera peut-être à Angers en octobre 2015. C'était le choix de Laetitia qui vous glisse comme ça dans l'oreille que Libero Coro a une chaîne YouTube. Allez donc jeter une oreille.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
C'est maintenant l'heure d'enfiler votre maillot et de rentrer sur le terrain. Et oui, c'est la chronique sport qui commence avec Charlotte. Salut Charlotte.
Salut.
Et ce soir, tu as tenu, oui, tu as réellement insisté pour nous parler de handball encore. Et sérieusement, Charlotte, pourquoi ?
Oui, je sais, Tiffaine, ça fait 3 semaines qu'on te parle et qu'on vous parle à vous, chers auditeurs, de hand sans relâche. Tout a commencé avec Hugo, qui, bien avant la finale de championnat du monde de handball, vous a expliqué le pourquoi du comment, le Qatar organisateur du mondial. Ensuite, c'est mon coéquipier de longue date, Julien, qui s'y est mis en vous parlant de la victoire de la France. Enfin, plutôt, en vous parlant de l'exploit du Qatar.
Oui, bon, on le sait, tout ça, tu vas quand même pas encore nous parler du Qatar.
Eh ben non, justement, je commence à en avoir marre du Qatar, tout le monde en parle. Du genre, oh, tu te rends compte, le Qatar en finale, oh, le Qatar n'a que des naturalisés dans son équipe. Oh, ils nous ont quand même fait peur, et puis ils ont réussi à faire l'exploit d'être les premiers non-européens à arriver en finale pour les mondiaux, etc., etc. Bref, moi, ça me gonfle. Arrêtons un peu de leur accorder tout ce crédit. Je ne remets en aucun cas en cause le chemin qu'ils ont parcouru, parce que, bon, malgré tout, ils ont quand même été plutôt bons. Il faut l'avouer. Mais quand même, pourquoi ne pas être fier d'être français jusqu'au bout ? Pourquoi ne pas penser qu'à nous ? Ouais, c'est égoïste, mais bon, on s'en fout. Et pour une fois, pourquoi ne pas se dire, mine de rien, bah on est quand même les meilleurs, quoi. Ouais, ça fait un peu, enfin, c'est carrément nationaliste, genre on est les rois du monde, la France est super cool et tout. Mais regardons tout de même d'un peu plus près le palmarès hors norme de cette équipe. Donc des bronzés en 92 aux experts de 2015, en passant par les Barjots et les Costauds, la France est devenue 5 fois championne du monde, 3 fois championne d'Europe et 2 fois championne olympique. Alors s'il vous plaît, soyons-en fiers et évitons de parler des Qataris et toutes les polémiques qu'il y a eu autour. On s'en fout, mais surtout, évitons d'être lassés de tout ça. Donc le petit journal de Canal a fait un montage de toutes les images des JT du 20h qui montraient le retour des héros, selon le terme des 20h. Une journée qui, depuis 92, s'est avérée être foncièrement la même et surtout se répéter inlassablement à chaque trophée. Et comment le petit journal a présenté ça ? Bah, tout simplement en répétant « je déteste cette journée ». Alors bien sûr, c'était de l'ironie, c'était pour prouver que les Bleus sont exceptionnels et que chaque année, ils nous émerveillent un peu plus. C'était aussi pour se moquer des JT français qui sont honnêtement à court de vocabulaire, à la hauteur des événements et qui répètent chaque année, faute d'autres qualificatifs, le retour des héros.
T'as vu tout ça toi là-dedans ?
Ouais, j'ai vu tout ça. Bon, peut-être qu'ils voulaient pas vraiment dire tout ça, mais je préfère le croire parce que je sais pas si les gens se rendent compte. Mais c'est le seul sport pour lequel on peut être super fier. Côté handball, les joueurs sortent du bus, ils jouent bien, ils font des efforts et ils gagnent avec la manière. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, sans déconner ? Non mais vraiment, là on est au summum de tout ce que j'aime dans le sport, de la passion que peut nous apporter un sport, peu importe lequel. C'est juste un bonheur de voir des mecs jouer comme ça, se défoncer pour leur maillot et pour leur pays. C'est tout simplement ce qu'il y a de plus beau dans le sport et honnêtement, vous allez peut-être me trouver bête, mais c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me fait vibrer et je trouve ça merveilleux de pouvoir vivre des instants comme ça dans une vie. Alors s'il vous plaît, profitez-en.
Merci Charlotte, on va en profiter.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, eh bien, c'est les vacances, alors c'est plutôt calme. On vous conseille de vous caler au chaud à côté de votre poste de radio. Et on termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Jeudi dernier, Dubway a fait le tour de l'Afrique en 1 heure, c'est possible. Escale en Éthiopie à la rencontre des Rastafari.
Qui dit dub, dit culture jamaïcaine. Et ça, on en a déjà pas mal parlé. Mais sur cette île, c'est aussi là que la pensée Rastafari a vu le jour. Et le rastafarisme, en fait, c'est une religion qui s'inspire très largement des textes chrétiens et qui ajoute à cela, on peut vraiment parler d'un culte pour l'Afrique et pour l'Éthiopie. Donc qui serait l'Éthiopie qui serait la terre promise de tous les Rastafari. Alors si l'Éthiopie occupe cette place symbolique au sein du mouvement Rastafari, c'est pour plusieurs raisons. Alors dans la Bible, les références à l'Afrique et à l'Éthiopie sont nombreuses, d'après ceux qui l'ont lu. Et plus concrètement, dans les années 1920, il y a un penseur jamaïcain qui s'inscrit dans le panafricanisme, qui s'appelle Martus Garvey, et lui il va définitivement galvaniser le mouvement Rastafari autour du symbole éthiopien. En fait, à l'époque, il avait prophétisé l'arrivée d'un roi. Et pendant un discours, il s'est exprimé en ces termes. Il a dit « Regardez l'Afrique, regardez vers l'Afrique, où un noir sera couronné, qui mènera le peuple noir à sa délivrance. » Et alors, hasard, prophétie, les interprétations, après c'est libre à chacun, mais le fait est que en 1928, c'est chose faite. Haïlé Selassie, né sous le nom de Rastafari Makonnen, est proclamé Négus d'Éthiopie. Négus, autrement dit, le roi des rois.
Vous pouvez réécouter la totalité de Dubois sur le www.radiocampusangers.com et dans un instant des 20h, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, oui j'avais envie de la placer celle-là, ce sera Otros Mundos, Michel qui fait se promener des micros tout autour du monde. Nous on se retrouve demain à 19h, on décryptera l'actualité avec Angers Mag. Et merci à Charlotte, merci à Thomas pour la co-préparation de l'émission et à Raoul pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.